Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome hémolytique et urémique atypique, ou CHU atypique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivia Boyer. Professeur Boyer, bonjour.
Bonjour.
Professeur Boyer, vous êtes néphrologue pédiatre, professeur des universités à l'Université de Paris et praticien hospitalier au sein du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Vous animez également le centre de référence des maladies héréditaires de l'enfant et de l'adulte, MAREA, affilié à la filière de santé maladies rares ORCID. Alors, professeur Boyer, on aborde aujourd'hui le CHU atypique en pédiatrie. Quelles sont les atteintes dues à ce syndrome hémolytique et urémique rencontrées chez les enfants touchés par cette maladie ?
Le diagnostic de syndrome hémolytique et urémique atypique se fait devant la présence d'une triade biologique qui associe une anémie hémolytique avec la présence de schizocytes, une thrombopénie et une atteinte rénale de type glomérulaire avec une hématurie qui est constante, micro ou macroscopique, une protéinurie, une insuffisance rénale aiguë et une hypertension artérielle. Néanmoins, un de ces éléments peut manquer et ne doit pas faire ignorer le diagnostic. Certaines formes peuvent être multiviscérales, avec notamment une atteinte digestive, hépatique, pancréatique, cérébrale ou cardiaque.
Et quels sont les signes cliniques qui doivent alerter et faire évoquer le diagnostic de ce CHU atypique chez l'enfant ?
Alors, les symptômes qui doivent faire évoquer un CHU sont ceux de l'anémie, donc la pâleur, l'asthénie, la dyspnée ou un souffle cardiaque, ceux de l'hémolyse, l'ictère ou les urines foncées, ceux de la thrombopénie, des pétéchies ou des hématomes, même s'ils sont très rares, et ceux de l'atteinte rénale, donc une hématurie ou des urines foncées, une oligurie, des œdèmes et une hypertension artérielle. Et éventuellement, cela associé à des atteintes viscérales, comme des douleurs abdominales, thoraciques ou tout signe neurologique central.
Et chez ces jeunes patients, professeur Boyer, quels sont les diagnostics différentiels à écarter lorsqu'on soupçonne un CHU atypique ?
Alors, chez l'enfant, dans 90% des cas, ce CHU est secondaire à une infection à Escherichia coli producteur de chigatoxine qui survient après un tableau digestif de diarrhée. On dit alors que le CHU est typique. Mais dans 10% des cas, il s'agit d'un CHU non lié à ces chigatoxines et on dit alors que le CHU est atypique. Les causes de CHU atypique sont multiples. Anomalies de la voie alterne du complément qui peuvent être auto-immunes ou génétiques, des infections, notamment des infections graves à pneumocoque, des maladies rares métaboliques comme l'acidémie méthylmalonique, ou plus rarement des médicaments comme les chimiothérapies, la greffe de moelle osseuse, ou elle peut être secondaire à des maladies auto-immunes comme le lupus. Le CHU atypique peut survenir à n'importe quel âge, en période néonatale pour les anomalies congénitales ou à l'adolescence pour une anomalie acquise, notamment avec des anticorps antifacteur H. Un autre diagnostic différentiel est le purpura thrombopénique thrombocytopénique, qui est dû à un déficit en ADAM-TS13 ou à des auto-anticorps anti-ADAM-TS13, qui associe également une anémie hémolytique avec la présence de schizocytes et une thrombopénie, mais l'atteinte cérébrale est alors prédominante et l'atteinte rénale possible. Cette pathologie est encore plus rare que le CHU atypique chez l'enfant et touche surtout les nouveau-nés en cas de déficit congénital en ADAM-TS13 ou les adultes et adolescents en cas d'auto-anticorps anti-ADAM-TS13.
Alors, dans ces cas que vous venez de citer, comment confirmer le diagnostic de CHU atypique chez ces jeunes patients ?
Alors, le bilan à la phase aiguë doit comporter un bilan d'hémolyse, donc une numération formule sanguine avec recherche de schizocytes, des LDH, une haptoglobine, une bilirubine et un bilan extensif des atteintes rénales et extrarénales, avec un ionogramme sanguin, une protéinurie, une bandelette urinaire, un bilan hépatique, pancréatique, une troponine et enfin un bilan étiologique. En dehors des cas particuliers de CHU secondaire à une infection à pneumocoque, qui est souvent oxygénodépendante et sévère, ou un CHU secondaire à une chimiothérapie, ce bilan va éliminer un CHU typique par une PCR des Escherichia coli sur un écouvillon rectal qui est envoyé à un laboratoire de référence de bactériologie des Escherichia coli. Et puis on va éliminer un PTT par un dosage de l'ADAM-TS13. Et une maladie métabolique par des chromatographies. Et finalement, on confirmera le CHU atypique par une étude approfondie de la voie alterne du complément en réalisant des dosages enzymatiques, des recherches d'anticorps et une étude génétique qui peut prendre plusieurs mois.
Alors, si on se projette sur le long terme maintenant, quelle est l'évolution de ce syndrome hémolytique urémique atypique chez les enfants et comment prendre en charge cette maladie ?
Alors, le CHU atypique est une maladie dont le pronostic a drastiquement changé depuis le décryptage des différentes étiologies et l'avènement des traitements ciblant le complément. Les CHU atypiques évoluent par poussée, qui peuvent être déclenchées par tout type d'agents infectieux, comme le virus de la grippe par exemple. À chaque poussée, des séquelles rénales et extrarénales peuvent survenir. Sans traitement, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale était très fréquente. Un tiers des enfants étaient en insuffisance rénale terminale dans les 5 ans suivant le diagnostic de CHU atypique, avec un fort risque de récidive après greffe rénale. Le taux de mortalité était également particulièrement élevé, se situant entre 8 et 10% chez l'enfant. Dans les formes génétiques de CHU atypique, les traitements ciblant le complément ont significativement changé le pronostic de la maladie, avec un taux d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale qui est uniquement de 10% maintenant, et des récidives post-greffe très rares sous traitement, avec un taux de mortalité de l'ordre de 1%. Néanmoins, ces médicaments induisent un risque d'infection bactérienne à pneumocoque ou à méningocoque et doivent être associés à une vaccination large et spécifique du patient et de l'entourage et à un traitement antibiotique préventif. Alors qu'initialement il était envisagé que ces traitements ciblant le complément soient poursuivis à vie, le traitement a pu être interrompu chez certains patients répondant à des critères précis et avec une surveillance rapprochée des rechutes par bandelette urinaire régulière et lors des infections. Enfin, dans les formes auto-immunes par anticorps anti-facteur H du complément, des traitements proches de ceux du lupus, échanges plasmatiques, corticoïdes et immunosuppresseurs, permettent des rémissions prolongées avec un recul actuel de 15 ans.
Alors, dernière question, professeur Boyer, puisqu'on arrive au terme de notre entretien. Lorsque ces jeunes patients grandissent, comment assurer la transition enfant-adulte ?
Comme nous l'avons mentionné, des poussées de CHU atypiques sont possibles toute la vie, notamment lors des infections. La grossesse est également un facteur déclenchant chez des patientes prédisposées. Il est donc crucial que les patientes et patients soient suivis à vie par un médecin spécialisé. Lors de la transition, au mieux lors d'une consultation conjointe avec le néphrologue pédiatre et le néphrologue adulte qui continuera de suivre le patient, on s'assurera que l'adolescent devenu jeune adulte connaît le nom de sa maladie, sa cause si elle a été identifiée, génétique ou auto-immune, le risque de rechute et ses facteurs déclenchants, infection, grossesse, et les moyens de la dépister rapidement par l'analyse de la bandelette urinaire qui peut être faite par le patient à domicile. Les risques liés au traitement, infection bactérienne à pneumocoque ou méningocoque avec nécessité d'une vaccination spécifique et d'une antibioprophylaxie en cas de traitement ciblant le complément. Et enfin, que le patient sache expliquer tout ça à son médecin traitant, son gynécologue et au médecin qui le prendrait en charge aux urgences.
Eh bien, merci mille fois, professeur Boyer, de nous avoir éclairé sur ce syndrome hémolytique et urémique atypique chez l'enfant. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.